Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par une enquête exclusive sur la mine de Rubaya à l'est du Congo, désormais sous le contrôle du groupe rebelle M23. En quoi ce site est-il crucial pour l'économie mondiale ?
La mine de Rubaya produit du coltan, un minerai indispensable à la fabrication de smartphones, d'ordinateurs portables et de véhicules électriques. Selon l'USGS, 60% de la production mondiale de coltan provient de la RDC, dont une part significative de cette seule région.
Depuis la prise de contrôle par le M23 en avril dernier, on estime à 800 000 dollars par mois les revenus issus des taxes imposées aux commerçants du coltan. Peut-on dire que cette manne alimente directement l'insurrection ?
Ces revenus qui transitent hors de tout circuit officiel financent l'achat d'armes et renforcent la présence militaire du groupe. C'est un cercle vicieux. Plus les rebelles contrôlent la ressource, plus ils pérennisent leur pouvoir et l'instabilité régionale.
Derrière ces chiffres se cachent des réalités humaines inquiétantes. Que sait-on aujourd'hui sur les conditions de travail dans la mine de Rubaya ?
Les rapports de terrain évoquent le recours systématique au travail des enfants et des conditions de sécurité déplorables. Amnesty International souligne que 40% des mineurs n'ont pas 18 ans, exposés à des éboulements et à des substances toxiques sans protection adéquate.
Poursuivons avec la dimension internationale. Plusieurs acteurs économiques américains, dont certains associés à Donald Trump, cherchent à acquérir des droits miniers à Rubaya sous couvert d'investissements pour la paix. Comment interpréter cette démarche ?
Il s'agit d'un double discours. Officiellement, ces investissements visent à stabiliser la région, mais en réalité, ils risquent de légitimer le contrôle rebelle et de détourner les profits au détriment de la population locale. C'est un phénomène de mining diplomatie déjà observé au Soudan ou en Afghanistan.
La diplomatie régionale n'est pas en reste. Le Kenya vient de nommer Judy Kiaria Nkumiri comme consul général à Goma, ville pourtant sous contrôle rebelle. Ce geste suscite la méfiance à Kinshasa. Quelles en sont les implications ?
C'est un choix délicat. Nairobi affirme agir dans un cadre administratif, mais beaucoup y voient une reconnaissance de facto du pouvoir rebelle. Selon l'analyste Paulin Bourano, cela pourrait fragiliser le rôle de médiateur du Kenya et compliquer les négociations de paix.
En somme, la gestion du coltan congolais révèle un enchevêtrement complexe d'intérêts locaux et internationaux, où chaque geste diplomatique est scruté. Peut-on entrevoir une sortie de crise ?
Tant que le contrôle du coltan demeure une source de financement armé, toute solution durable exigera un engagement international coordonné, une traçabilité renforcée et une pression accrue sur les parties prenantes.
Changeons de sujet avec la campagne Correct the Map, soutenue par l'Union africaine. Pourquoi la représentation cartographique de l'Afrique est-elle si cruciale aujourd'hui ?
La projection de Mercator, utilisée depuis des siècles, rapetisse l'Afrique et gonfle l'Europe et l'Amérique du Nord. Cela influence notre perception subconsciente. Un continent sous-représenté paraît moins important sur la scène mondiale, un biais qui se répercute jusque dans les politiques d'aide et d'investissement.
L'Equalers, adopté en 2018, propose une alternative plus fidèle aux proportions géographiques. Quels effets concrets un tel changement pourrait-il avoir ?
Corriger la carte, c'est aussi corriger l'imaginaire collectif. Une étude de l'université de Stanford a montré que les élèves exposés à la nouvelle projection valorisent davantage le continent africain et perçoivent différemment les enjeux mondiaux. Cela pourrait, à terme, rehausser la place de l'Afrique dans le débat public et diplomatique.
De grandes organisations telles qu'Africa No Filter ou Speak Up Africa militent pour ce changement. La résistance institutionnelle demeure-t-elle forte ?
Principalement chez les éditeurs occidentaux et certains gouvernements, mais la pression de la société civile africaine et l'appui de l'Union africaine pourraient accélérer l'adoption d'outils éducatifs plus justes et représentatifs.
Abandonne maintenant la politique des réfugiés aux États-Unis. L'administration Trump envisage de réserver la majorité des places aux blancs sud-africains, soit une rupture majeure avec la tradition américaine. Quelle réaction cette annonce a-t-elle suscité ?
L'administration Trump envisage de réduire drastiquement le nombre de réfugiés admis de 100 000 sous Joe Biden à environ 40 000. Ce qui choque le plus, c'est la volonté affichée de réserver la majorité des places aux blancs sud-africains, en particulier les Afrikaners. Donald Trump justifie cette orientation par des accusations de discrimination et de violence envers cette minorité en Afrique du Sud, des affirmations rejetées par Pretoria. Mais cette approche représente une rupture majeure avec la tradition américaine. Depuis des décennies, le programme de réinstallation des réfugiés privilégie les populations fuyant des guerres et persécutions en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique.
Ce virage intervient alors que l'ONU recense 37 millions de réfugiés dans le monde. Quels impacts prévoir sur l'équilibre global des politiques d'accueil ?
Si les États-Unis réduisent leur quota à 40 000 réfugiés et privilégient une seule communauté, cela risque de créer un précédent pour d'autres pays. On pourrait assister à une fragmentation des politiques d'accueil et à une montée de la xénophobie institutionnelle.
Dans le même temps, l'échec des négociations sur le plastique à l'ONU à Genève marque l'impuissance face à une crise environnementale majeure. Peut-on espérer une relance du processus ?
Près d'une centaine de pays plaidaient pour, mais ils se sont heurtés au refus catégorique de puissances productrices d'hydrocarbures comme la Russie, les États du Golfe ou les États-Unis. Le texte final est resté truffé d'options entre crochets sans engagement clair. La ministre française de la Transition écologique s'est dite déçue et révoltée, dénonçant la complaisance des producteurs de pétrole. Les diplomates suisses, eux, appellent à une pause et à une réflexion plus large. Or, le temps presse. La production mondiale de plastique pourrait tripler d'ici 2060. Sans accord sur la source du problème, recycler ne suffira pas.
Terminons sur une note sportive et nationale. D'abord, l'Inde a célébré son 79e anniversaire d'indépendance. Le Premier ministre Modi évoque un Ayya Bharat. Quelle signification cette vision revêt-elle pour le pays ?
Ayya Bharat ou Nouvelle-Inde symbolise l'ambition d'une nation pleinement développée d'ici 2047. Depuis les remparts du Fort Rouge, le Premier ministre Narendra Modi a prononcé son 12e discours consécutif. Fidèle à son style, il a mêlé hommage aux pères fondateurs, en particulier Mahatma Gandhi, et promesses d'avenir. Modi insiste sur la digitalisation, la croissance économique et la sécurité, positionnant l'Inde comme futur leader du 21e siècle. Cela inspire une jeunesse avide de progrès et d'innovation.
Sur le plan sportif, la RDC a remporté une victoire historique contre le Rwanda à l'Afrobasket 2025. Quelle portée donner à ce succès ?
Sur le score de 65 à 58, le match n'a pourtant pas été simple. Les Léopards ont compté jusqu'à 16 points d'avance en deuxième quart-temps, avant que le Rwanda ne revienne fort avec une série de 10 points consécutifs. Mais dans les dernières secondes, le meneur américano-congolais Jonathan Jordan a scellé la rencontre avec un tir à mi-distance. Cette victoire maintient l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale et offre aux Congolais un rare moment de fierté, loin des tourments politiques et sécuritaires.
Merci pour votre éclairage. Entre enjeux miniers, diplomatiques, environnementaux et sportifs, l'actualité de ce 6 août 2025 illustre la complexité du monde. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouveaux développements.